Voilà. Alors, est-ce qu'il vous arrive parfois, en lisant votre Bible, de tomber sur quelque chose qui vous paraît peu actuel ? Ça peut être fréquent, hein ? Et alors, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Et c'est un de ces passages très courts que nous allons approfondir ce matin. Et je vous propose de le lire dans la lettre que Jean, la première lettre que l'apôtre Jean nous a laissée. Le tout dernier, c'est ce qui est troublant d'ailleurs, le tout dernier verset, c'est la salutation. Donc ça peut s'afficher ou pas. Est-ce que ça va aller ? Ça va venir. On peut faire sans, ça va être un petit peu plus acrobatique, mais on va y arriver. Alors, dans la lettre que Jean écrit, il est un très vieux monsieur au moment où il parle, vraisemblablement. Il est quelque part dans la région grecque, voilà, ça apparaît, et il écrit ceci dans sa lettre. Il y a un mode diaporama dans PDF, je crois, hein, si vous l'avez trouvé. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Super. Alors, il me reste à savoir si j'ai les pouvoirs. Tada ! Ouais. C'est ça le problème avec les choses que l'homme construit. Il faut qu'il soit branché. C'est le thème de la prédication. Vous allez voir que c'est très actuel. Hop là. Alors si je vais en arrière. Oh super. Waouh. On y va. C'est toujours impressionnant. Voilà. Donc il termine cette phrase, hein, l'apôtre, avec petits enfants, gardez-vous des idoles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Bon, on cherche. Ou alors, comme c'est la fin de la lecture, on ne trouve rien, on passe au livre suivant. Et comme il est de coutume pour un prédicateur, il faut qu'il indique un champ à la fin de la prédication. Et donc là, j'étais embarrassé, donc j'ai botté en touche, j'ai passé du côté de Pierre. Et puis j'ai aussi été voir Sylvie et je lui ai demandé, est-ce que tu n'aurais pas un chant en rapport avec... Le thème, c'est l'idolâtrie. Elle me regarde, elle me dit, t'as pas un mot plus moderne ? Voilà, on en est là. L'image tout de suite qui apparaît pour les idoles, c'est un vieux truc. Un truc des Grecs ou des Romains, avec des statues, des choses comme cela. Donc, voilà, est-ce que ça devient un verset inutile ? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors on s'est dit, ben oui, il y a peut-être des choses qui prennent la place de Dieu dans mon cœur. Et à ce moment-là, ça devient une idole. Et à partir de ce raisonnement, on peut continuer à avancer. Mais je pense qu'en réalité, ce qui est écrit là va beaucoup plus loin que simplement ce que je viens d'évoquer. Paul aussi nous dit, je l'ai là aussi, ne devenez point idolâtres. Au chapitre 10 de Corinthiens, ne devenez point idolâtres, ou un peu plus loin, verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc c'est dans le Nouveau Testament. Hein, ce n'est pas l'époque de Jérémie, d'Ésaïe, ou même d'Élie sur le mont Carmel. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Eh bien, pour comprendre ce que c'est que l'idolâtrie, il faudrait disposer d'un manuel, quelque chose qui nous explique comment on peut devenir idolâtre, manuel d'utilisation. Eh bien, nous en trouvons un dans les prophètes, justement. Le prophète Ésaïe a écrit dans les chapitres 40 à 44 de très très beaux passages sur l'idolâtrie. Nous allons les découvrir ensemble. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon, il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim, le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé. Le charpentier, il étend le cordeau, il fait un tracé au crayon, il façonne le bois avec un couteau, il marque ses dimensions avec le compas et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres, des chênes, il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend, il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti, il se rassasie, il se chauffe aussi. Et il dit, « Ah, je me chauffe, je vois la flamme !» Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque. Il s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu !» Voilà ce manuel qui nous apprend un petit peu comment le processus d'idolâtrie se met en place. Vous aurez senti un petit ton moqueur dans ce texte. Et c'est intéressant de voir que quand Dieu nous parle de l'idolâtrie, il est sarcastique. Tellement la situation est ridicule. Et on va garder ça à l'esprit dans l'idolâtrie. Il y a un côté à la fois tragique et amusant. Quand on prend du recul, le recul que nous donne Ésaïe, justement, pour voir, mais écoutez, racontez-nous là de quoi il s'agit quand on fait une idole. Alors, pour approfondir ce manuel, on va passer par des petits schémas qui sont limités, ils valent ce qu'ils valent, mais on va essayer de voir. À travers ces vues schématiques, on va situer dans quel espace nous sommes. Vous savez comment commence le texte biblique, nous l'avons entendu dans ces merveilleux chants et dans l'introduction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est là que commence le fondement sur lequel on va pouvoir comprendre l'idolâtrie. Il y a Dieu, il y a les hommes, et les dieux, et les deux ne sont pas semblables. En somme, la foi judéo-chrétienne, la foi juive, la foi chrétienne qui s'est construite sur la foi juive, c'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu, elle est très simple à comprendre. Il y a Dieu, il y a les hommes, et les deux ne se confondent pas. Les hommes viennent de Dieu, non seulement les hommes, mais tout l'univers. Et il y a donc un lien de dépendance. Dieu crée les cieux et la terre et l'être humain. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Pour l'idolâtrie, vous l'avez lu à travers le manuel d'Ésaïe. L'homme prend du fer ou du bois et il façonne. C'est l'inverse. L'homme fabrique son Dieu. Et le mot fabrique va être important. C'est le mot qui va être employé dans le psaume que nous lirons tout à l'heure. L'homme fabrique son Dieu. Le processus est inverse. On part d'en bas et on monte vers le ciel, vers le divin. Mais comme ce n'est pas facile de lire de bas en haut, je vais renverser le schéma. Voilà. L'homme fabrique son Dieu. Là, on est dans l'idolâtrie. À gauche, Dieu crée, nous crée l'être humain. Nous, dans notre acte idolâtre, nous créons, fabriquons notre propre Dieu. Voilà. Dans cette comparaison des deux schémas, vous voyez que c'est un grand renversement, c'est un bouleversement complètement, on pourrait appeler ça une révolution, un renversement. Et là, du coup, l'homme se trouve au même niveau que Dieu dans le schéma. Et Dieu se trouve au niveau de l'homme. Dieu passe dans le domaine de la création et l'homme devient divin. Il est maître des choses. Comme ce n'est pas possible, je change un petit peu et je fais descendre le schéma. Voilà. L'homme retrouve sa place à peu près. Voilà. On va continuer parce que ce n'est pas tout le processus. L'homme fabrique son Dieu. Dieu a créé bara, c'est-à-dire il a créé à partir de rien. Il n'avait pas de matériaux préexistants. Dieu se suffit à lui-même et il a tout imaginé, comme l'architecte, il a tout imaginé beau et bien, comme nous le lisons dans le premier chapitre. Mais l'homme, il a besoin de matériaux, il est très limité. Donc il fabrique à partir de quelque chose qu'il trouve sous la main. Mais nous allons réintroduire, comme nous avons la foi dans l'Écriture sainte, nous comprenons que Dieu n'a pas disparu dans l'idolâtrie. Il est toujours là. Je l'ai mis en grisé parce que nous nous plaçons maintenant du point de vue de l'homme idolâtre. Et j'ai mis un gros trait noir. Alors ce gros trait noir, il faut que je l'explique. Vous allez découvrir que c'est mon dada. Je vous ai déjà parlé dans une de mes prédications du siècle des Lumières. Et je vous en avais donné la définition par Kant lui-même. On va vite la revoir. Il y a ici, donc, c'est tiré du texte d'Emmanuel Kant lui-même, en 1784, il répond à la question « Qu'est-ce que le siècle des Lumières ?» Et ça me paraît tellement fondateur d'une civilisation que nous allons le relire. Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son propre entendement sans être dirigé par un autre. Elle est due à notre propre faute, cette incapacité, elle est due à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance de l'entendement, mais d'un manque de résolution, de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Autrement dit, sapere aude, comme je n'ai pas fait de latin, j'ai regardé dans Wikipédia, ça veut dire ose, quelqu'un peut-être le sait, non, ose savoir. En fait, c'est un projet d'accès à la connaissance. L'affranchissement de la tutelle, c'est sapere aude, et le courage de te servir de ton propre entendement pour l'accès à la connaissance. Telle est la devise des Lumières. Ce qu'il y a de formidable, je l'aime beaucoup cette définition, parce qu'au moins elle a le mérite d'être extrêmement claire. Il n'y a pas d'ambiguïté, ce n'est pas philosophique, c'est très accessible. Il s'agit de s'affranchir de l'être d'autrui, d'où le trait noir. Et cette séparation d'avec toute dépendance d'autrui. Et ce projet-là, ça a pris. Aujourd'hui, nous sommes dans les civilisations, ou on peut peut-être même le mettre au singulier, la civilisation mondiale, ça s'est mondialisé. L'homme, aujourd'hui, les modèles politico-économiques et philosophiques, les modèles de pensée, sont tous, peu ou prou, basés sur ça. Et alors, nous, on est comme des ovnis. Hein, voilà. Donc, l'homme fabrique son Dieu. Il est dans son atelier. Mais là où ça devient un petit peu plus subtil, c'est qu'il a évolué et il n'utilise plus de médias comme un bout de bois ou un bout de fer qu'il trimballe avec lui. Il s'auto-divinise. Voilà. Donc j'ai mis une flèche arrondie, parce que c'est dans le cercle de la création. L'homme se prend pour sa propre référence. Il juge de tout et il n'est jugé par personne. Il analyse, il décide en fonction de ses propres ressources. Il a coupé toute dépendance. Et c'est un projet très excitant. Paul le résume en Romains 1, 25. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc on garde à l'esprit cet avertissement, cet appel de Jean. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ou Paul, fuyez l'idolâtrie. Donc là, avec un horizon aussi vaste, on va commencer à réfléchir à cette histoire d'idolâtrie. En quoi sommes-nous menacés d'idolâtrie? Donc, l'homme fabrique son Dieu homme, et, chose très surprenante, j'ai trouvé que le schéma était déséquilibré. Alors j'ai rajouté une flèche pour faire beau. Voilà. L'homme fabrique son Dieu homme, et le Dieu homme fabrique l'homme. Oula, j'ai tenté de faire comme Emmanuel, j'ai voulu faire de la philosophie. Je dis ça parce que dans le processus de l'idolâtrie, il y a un passage que nous approfondirons tout à l'heure et à la fin sur la ressemblance. Dieu dit dans le psaume 135 que nous allons pas tarder à lire, il leur ressemble, ceux qui fabriquent des idoles. Très surprenant. Ça veut dire qu'on ressemble à des choses qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, et surtout qui ne sauvent pas. On est devant ce défi d'un double, d'un effet miroir. Je l'ai appelé l'effet miroir. Je m'aperçois que, oui, bon, on verra l'effet miroir tout à l'heure. Là, on va voir les résultats de l'idolâtrie. Il faut qu'on s'attarde là-dessus. Est-ce que ça marche, l'idolâtrie ? La diapositive est blanche parce qu'en fait, ça n'a aucun effet. Ça ne marche pas. Et c'est vraiment la façon dont Dieu s'exprime quand il aborde l'idolâtrie. Il dit, regardez, mais ouvrez les yeux, testez scientifiquement. Regardez les effets de votre théorème de base. Alors, Jérémie, au chapitre 2, ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Ce verset, j'ai accroché dessus. Donc Dieu dit des idolâtres, ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Alors, j'ouvre une perspective, c'est un peu une parenthèse, c'est une parenthèse risquée, je vous la laisse pour votre propre réflexion, mais je pense à la science, ou plutôt la science, la métascience, la science qui va juste au-delà de la ligne où elle est en déséquilibre, où elle n'est plus science, mais où elle est en tentative d'explication de l'origine des choses, du pourquoi, etc. Quand ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie, j'ai immédiatement pensé à la théorie scientifique qui tente à expliquer d'où viennent toutes choses. Ben, c'est la pierre, c'est le bois, ça a évolué. La matière organique s'est créée dans un bouillon de culture ammoniaquée de départ, etc. Il y en aura d'autres qui vous parleraient ça bien mieux. Alors, c'est la science qui émet une hypothèse, qui avance quelque chose. Mais ce qui sous-tend cela, c'est une autre affaire. Dieu n'existe plus, on s'en est débarrassé, et la théorie de l'évolution, ou de la création, on pourrait dire, de la création sans Dieu, on pourrait plutôt l'appeler comme ça, elle est basée finalement sur ce verset-là. Alors je ferme la parenthèse. Et on en arrive à la question relationnelle qu'on a déjà entendue dans les chants avant la prédication. Ils me tournent le dos, ils ne me regardent pas, et quand ils sont dans le malheur, ils disent « Lève-toi, sauve-nous !» Où donc sont tes dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Ça, c'est les effets nuls tel que décrit par Jérémie. Et là, le psaume 135 va développer cela. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, toujours le circulaire, hein, l'homme mange et produit son Dieu, dans un seul et même mouvement. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Voilà le verdict de l'efficacité de l'idolâtrie. C'est donc une efficacité à double tranchant parce que les dieux créés par l'homme, fabriqués par l'homme, sont totalement impuissants. Mais celui qui adore ressemble à son Dieu. C'est-à-dire qu'il devient sourd, aveugle et muet. Paul va le dire en termes beaucoup plus sévères, il devient fou. Maintenant, on va redresser un nouveau parallèle à propos de cette image. L'idolâtre va ressembler à son idole. Revenons au départ, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'image de Dieu, c'est un terme très difficile. Je ne suis pas à l'aise du tout en vous en parlant, je le mentionne, donc vous prolongerez vous-même, parce qu'il y a eu des tonnes de bouquins sur l'image de Dieu. Et l'image de Dieu dans la création, puis ensuite on va voir dans Colossiens. Voilà, l'image de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et revenons à ce psaume 135. Il leur ressemble, ceux qui les adorent. Nous adorons Dieu parce que nous avons l'image, nous portons l'image de Dieu. Et non seulement nous portons l'image de Dieu qui est en dehors, au-delà de la création, donc c'est du solide, cela va rester, mais non seulement nous ressemblons à Dieu, mais en plus, à travers Christ, une étape est franchie. C'est pourquoi l'idolâtrie du Nouveau Testament est d'autant plus problématique, elle est plus grave dans un sens. Nous lisons Colossiens. « Rendez grâce au Père qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » On vient de le chanter aussi. « Car en Jésus-Christ, en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. » C'est pourquoi la réaction de Thomas, quand il voit Jésus, juste à la fin, hein, quand il a demandé des signes, etc., qu'est-ce qu'il fait ? Il adore. On a vu que dans l'idolâtrie, l'homme fabrique son propre Dieu à partir de ses matériaux. Et aujourd'hui, l'idolâtrie aboutit. C'est celle qui consiste à dire « l'homme est Dieu, Dieu est l'homme, donc c'est l'homme divinisé, il va se créer ». L'Évangile dit « oui », mais pas dans le cercle fermé de la création. Dieu envoie du ciel son Fils Jésus-Christ qui va nous recréer à son image. Quelquefois, on se demande qu'est-ce qui va se passer quand on sera dans son royaume, on sera là-bas. Alors on pense immédiatement à des contingences matérielles. Qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va habiter, des choses comme ça. Je vous propose Colossiens et même Jean. J'ai pas la diapositive là-dessus, mais où il dit quand il sera venu, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons comme il est. Est-ce qu'on peut retrouver ça ? J'ai pas préparé ça, mais 1 Jean 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, le Christ, ni le Père. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous pouvez imaginer cela ? Toute notre assemblée transformée, glorifiée, semblable à Christ. Il y aura des... On est peut-être 80, 100 Christ dans la salle. Est-ce que vous voyez votre frère, votre sœur en Christ ? Pas en Christ, selon l'expression habituelle, mais comme Christ. Voilà ce que nous sommes. Voilà l'adoration qui nous amène vers notre devenir. Nous serons tels qu'il est. Donc, quand Jean dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles », je repose la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on essaie d'identifier, peut-être que l'attrait du pouvoir, ou l'emprise de l'argent, ou l'appétit sexuel, ces choses-là sont des petits dieux ? Je crois que l'idolâtrie, c'est beaucoup, beaucoup plus chaud, beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. C'est un renversement complet de la foi chrétienne et juive qui consiste à se prendre pour Dieu et pour seule référence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le projet du siècle des Lumières a réussi. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que ce programme-là, c'est le bon programme. C'est celui qu'il fallait pour faire évoluer les sociétés, aussi bien politiquement, avec l'établissement des démocraties et tout ça, aussi bien économiquement, avec la mise en place d'un système unifié qui permet les échanges, etc., et aussi bien socialement, les échanges, toutes sortes de choses. Et nous disons, vous êtes tous des idolâtres, hein. Voilà ce qu'on dit au modèle de création du monde. Mais vous ne voulez quand même pas revenir au Moyen-Âge. La Bible dit clairement, Nous ne sommes pas autosuffisants. Ésaïe va même beaucoup plus loin. Quand il si vous aimez le thème de l'idolâtrie, vous pouvez revenir sur Ésaïe, chapitre 40, 41 jusqu'au chapitre 44. Vous avez cinq chapitres là qui sont superbes. Et dans un des passages, Ésaïe 10 dit « Les idolâtres se nourrissent de cendres ». C'est impressionnant. Toujours dans le prolongement de ces fameuses idoles qu'on construit en bois et qui servent aussi à chauffer sa nourriture. Donc il dit « La posture idolâtre amène à se nourrir de cendres ». Donc, l'exhortation de Jean ici, « Petits enfants, gardez-vous des idoles », elle est très très actuelle. Pourquoi ? C'est la thèse que je vous soumets. Notre civilisation est plus idolâtre que la civilisation athénienne ou romaine. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que les Grecs et les Romains avaient une vague idée d'un monde spirituel et que les statues qu'ils fabriquaient renvoyaient à des êtres qui existaient dans le ciel, mais qui n'étaient pas accessibles. Nous avons nettoyé le ciel. Fort heureusement, il n'y a plus de Dieu. Donc du coup, on n'est plus embarrassé par des tutelles et par des dépendances. Et on peut s'émanciper et grandir. Voilà l'idolâtrie qui nous menace. Jusqu'à quel point la pensée de la civilisation moderne, à travers en particulier sa technicité ou sa technicisation, nous tire. Et là, la tentation est grande de faire un mixte, de faire un mélange, de se dire, oui, il doit y avoir dans le modèle civilisationnel basé sur des choses bonnes que nous pouvons importer, et mélanger à notre foi chrétienne. Et là, c'est là où peut-être Jean pointe du doigt, ou Paul, fuyez l'idolâtrie. Mais c'est très délicat, c'est très très délicat, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on quitte le monde, puisque le monde entier est basé sur d'autres choses que la foi chrétienne. Comment on vit ? D'où précisément, petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce que le monde dans lequel nous évoluons appartient à Dieu. Il a fait le ciel, la terre, tout ce qu'elle renferme. Tout ce que nous recevons chaque jour vient de lui. Donc c'est dans cet habitat, dans cet écosystème, dans cette situation, que nous sommes appelés à glorifier Dieu. En faisant quoi ? En disant tout simplement, merci. Merci pour le pain quotidien. Merci pour ton Fils vers qui je chemine et que je vais finir par épouser, pour l'image de Christ et l'Église, que je vais finir par ressembler. Donc, restons là. Ne fuyons pas dans la garrigue, dans une communauté, pour quitter le monde. Mais comprenons bien que l'idolâtrie, c'est... adopter la posture philosophique, même outrancière, de l'homme qui est parvenu à son autonomie et qui le dit à nous. Il nous dit aux religieux, aux chrétiens, mais aux autres aussi, il nous ghettoise, il nous met dans un coin, vous êtes gentil, vous faites le moins de bruit possible, mais vous n'êtes pas cohérent. On vous a déjà démontré que le postulat du siècle de l'humain est le bon. Donc, vous pouvez voir toutes les activités que vous voulez, mais ne nous embêtez pas avec la création du monde par un Dieu qui, au commencement, a fait les cieux et la terre. Et ne venez pas avec votre Jésus-Christ. L'enjeu de l'idolâtrie, il est là. Il est vers la gloire du Christ et notre adoration au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Elle est sans partage. Elle est sans partage possible, idéologiquement. Dans nos convictions du cœur. Donc voilà, je vous laisse repartir avec cette exhortation. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Elles sont multitêtes, elles sont même plurielles. Amen. Nous avons un moment de méditation avant d'enchaîner avec un chant.